France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il y a 150 ans naissait Maurice Ravel, et un pianiste très ravelien s'il en est ouvre le bal des célébrations avec son album Ravel Fragments. Bertrand Chamaillou sera mon invité à partir de 13h. Mais on commence avec la critique. Aujourd'hui, on va parler de théâtre avec deux pièces qui questionnent la folie du pouvoir et la résistance au fascisme. Julius César de Shakespeare, mise en scène par Arthur Nosiciel, et L'esthétique de la résistance d'après le roman de Peter Weiss, mise en scène par Sylvain Creusevaux. Vous avez donc le programme entre les mains. Voici les artistes de la critique. Marie Sorbière, rédactrice en chef de IO, productrice du Point Culture sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour Vincent Bouquet, journaliste responsable d'édition à SNWeb. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Alors, et William Shakespeare éclaira le chemin une fois de plus. Arthur Nosiciel reprend sa mise en scène américaine de Julius César, pièce créée en 1599 au Théâtre du Globe à Londres. Et elle résonne ici d'une musique terrifiante après l'élection de Donald Trump. Car Julius César, c'est évidemment l'histoire de l'ambition dévorante du consul qui voulait devenir roi et renverser la démocratie romaine. Cette pièce, Arthur Nosiciel l'avait montée en 2008 aux États-Unis avec l'American Repertory Theatre de Boston, et c'est avec la même troupe qu'il tourne en France. L'action antique est transposée dans une Amérique chic et triomphante des années 60. On peut la voir jusqu'au 15 mars au théâtre Les Gémeaux à Sceaux. On commence avec un avis rapide, Marie Sorbier.
Eh bien, j'ai trouvé que c'était une proposition très élégante et feutrée. Mais sous les smokings, on sent quand même très bien la noirceur de la violence et de la vengeance. Alors la violence n'est pas démontrée, justement, elle se fait juste ressentir. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui réussit particulièrement bien Nosiciel. Et autre point très important, cette pièce de Shakespeare que je trouve habituellement, disons, retorse, voire barbante, je l'avais jamais vue très intéressante, ou en tout cas moi elle m'a jamais touchée, ben, je crois que c'est la première fois que je l'entends vraiment.
Vincent.
Oui, moi je dirais que c'est avec cette version à l'américaine de la pièce historique de Shakespeare, Arthur Nosiciel prouve en fait que les mots M.O.T.S. Des spectres antiques, puisque c'est une cérémonie un peu spectrale, peuvent résonner aussi bien intimement que politiquement avec les mots M.A.U.X. Du temps présent.
On va écouter tout de suite un extrait de ce Julius César version Arthur Nosiciel et version américaine. Donc,
Romans, countrymen and lovers, hear me for my cause and be silent that you may hear. Believe me for mine honor, and have respect to mine honor, that you may believe. Censure me in your wisdom, and awake your senses, that you may the better judge. If there be any here among us, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more.
Julius César, vous l'aurez compris, un spectacle en anglais sous-titré en français, bien sûr. Marie, c'est la première fois que vous l'entendez vraiment, cette pièce?
Oui, alors je me suis demandé pourquoi, tout le long de cette pièce qui dure un peu plus de 3 heures, je me suis dit, mais pourquoi cette fois-ci je la comprends, alors qu'habituellement, alors elle est peu montée, il faut dire, mais habituellement, les quelques mises en scène qu'on a pu voir, j'avais du mal à percevoir l'intérêt des intrigues, des conspirations, de l'héritier qui veut prendre la place de César, enfin ces choses quand même qu'on revoit un peu partout, je voyais pas l'intérêt de cette pièce, et là, tout d'un coup, tout m'est paru assez limpide, et je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, que c'est justement grâce à ce casting américain, et c'est quand même la grande idée d'Arthur Nosiciel d'aller chercher ces acteurs-là, parce que bah, ils jouent comme des acteurs américains, c'est-à-dire des acteurs comme l'acteur studio, quoi. Donc ils articulent, ils sont là avec leur smoking magnifique, c'est quand même une pièce d'homme, hein. Je crois qu'il y a une femme et une chanteuse, mais vraiment sinon il n'y a que des hommes sur scène. Comme c'est la même distribution qu'en 2008, bah, ce sont des hommes qui ont un peu vieilli, et ça donne un charme supplémentaire d'ailleurs, et une profondeur à ce qu'ils sont en train de jouer. C'est pas des jeunes fougueux qui veulent prendre la place, hein. C'est des cheveux blancs qui veulent y aller. Ça marche aussi. Et donc, ils jouent dans cette façon très américaine, c'est-à-dire très concrète. En fait, ils ne spiritualisent pas le texte de Shakespeare, ils ne l'intellectualisent pas. C'est ce qu'on a tendance, nous, Français, à faire, je trouve, tout le temps, à y mettre des couches de sens. Eux, quand ils jouent, bah, ils jouent ce qu'ils disent. Et comme dans une série américaine. Eh bien, pour ce texte-là, qui est particulièrement retors, je trouve que ça marche, mais magnifiquement bien. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai compris les enjeux. Je comprenais pourquoi Cassius est allé chercher Brutus pour aller tuer César. En fait, ça devient limpide. C'est en effet toujours des conspirations de boudoir, hein. On est dans des scènes en clair-obscur comme ça et on veut tuer le chef, quoi. Mais la dimension humaine, en fait, m'est apparue beaucoup plus clairement dans cette mise en scène-là. Et deuxième point, juste sur cette distribution anglaise, entendre Shakespeare en anglais, finalement, ça m'arrive pas si souvent, parce qu'on voit plutôt des mises en scène françaises, et ça, c'est un plaisir aussi d'entendre cette langue.
Là, hein, c'est super beau.
Ils articulent très fort, ils posent l'articulation, c'est un choix, j'imagine, de mise en scène, j'imagine que c'est le metteur en scène qui a imposé ça. Ça donne un anglais très beau, très prononcé, on arrive d'ailleurs à le comprendre assez facilement, et ça ajoute en fait un mystère à cette pièce, enfin un intérêt, voilà, à cette pièce de Shakespeare que j'ai retrouvé grâce à Arthur Noziciel.
Vincent Bouquet, sur la mise en scène déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, on voit, en fait, c'est vrai qu'Arthur Noziciel, vous soulignez Marie que c'est aussi les acteurs, mais c'est aussi Arthur Noziciel, je pense, qui fait ça, parce que pour moi aussi, c'est vrai que j'y suis allé avec à la fois un mélange d'appréhension et d'excitation. Excitation parce que c'est une pièce qui a fait date à sa création, et donc on se dit toujours, oulala, elle a une aura comme ça qui la précède. Et puis appréhension parce que moi aussi, c'est vrai que ce Jules César, il y a un petit côté bavardage, palabre, et puis quand on pense Shakespeare, on pense tout de suite Macbeth, Othello, Hamlet. Et là, c'est vrai qu'on a une pièce un peu historique comme ça. Et donc, pour revenir à votre question, Marie, sur ce qu'on voit, eh bien, on voit tout de suite une sorte de décalage, en fait, qu'instaure Arthur Noziciel. On a comme ça ce plateau avec le décor de Ricardo Hernandez, qui est vraiment un sublime décor, qui est un décor très ingénieux. On a comme ça des photos, avec d'immenses photos, qui reproduisent à la fois la salle vide d'un théâtre et à la fois un hémicycle politique. Mmh. Et ce décor, comme ça, il va vivre au rythme de la pièce. C'est-à-dire qu'à la fois, il va condamner les personnages, parfois il se resserre sur eux, il va les libérer parfois, notamment à la fin dans la scène, on va dire, des conjurés qui se battent pour une dernière fois pour leur vie. Et puis, il tend aussi un miroir au spectateur. C'est-à-dire qu'on a comme ça une inversion du rapport de force, des rapports même entre vivants et morts, entre les vivants que nous sommes et les morts qui sont sur le plateau. Et parfois, on se dit aussi, est-ce que c'est pas eux qui sont plus vivants que nous? Enfin, mm-hmm. on peut se poser la question, et puis aussi entre la fiction et le réel. Et tout ça, en fait, Arthur Noziciel, vraiment, il compose une sorte de cérémonie, et il se sert. Moi, c'est ça que j'ai trouvé formidable. C'est que ces longues tirades de Shakespeare, ces bavardages, ces palabres, il s'en sert comme d'un instrument de mise en scène. Par exemple, on avait vu Ivo Vanov, qui avait monté ce Jules César, il y a quelques années, dans ses tragédies romaines. Il lui avait adjoint et Antoine et Cléopâtre et Coriolan, et il l'avait resserré. Il s'est t'es dit, les palabres, moi je leur fais pas trop confiance. Et là, Arthur Noziciel, il suspend le temps, en fait, avec ses bavardages, avec ses palabres. Et en fait, il y a un côté comme ça de personnage shakespearien. Alors, vous disiez tout à l'heure, Marie, qu'il n'y avait pas de spiritualité. C'est vrai, mais en même temps, j'y vois quand même quelque chose d'un peu spectral, quand même, dans tout ça. C'est-à-dire que c'est ces fantômes, d'ailleurs, où tout départ, ils sont alignés comme ça, comme si on les convoquait, comme s'ils revenaient comme ça d'un très lointain passé pour nous dire un petit peu, eh bien, l'histoire telle qu'elle a été, et pour repasser aussi les plats d'une histoire dont en fait il connaîtrait déjà l'issue. Et ça donne une vraie dimension tragique à tout cela, parce que l'issue, c'est leur perte à eux et aussi la perte de la démocratie.
Donc c'est une pièce qui, effectivement, on l'a dit, résonne énormément avec ce qui se passe aujourd'hui, surtout quand on le crée en américain.
Alors, tout à fait. Et ça, évidemment, on sait que la pièce a été créée en 2008, donc ça fait quand même un petit bout de temps, oui. Que le monde a changé depuis, et pourtant, elle résonne autrement, j'imagine, qu'à la création en 2008. Alors, chacun peut y voir plein de choses. À l'entracte, on a écouté les gens parler, oui. Et en fait, les gens y voyaient des références à ce que fait Poutine aujourd'hui, par exemple, avec l'Ukraine, parce qu'il y a toutes ces tirades où ils disent, non, mais on va le tuer, on va l'attaquer, parce qu'en fait, il faut le purifier, et on fait ça pour le bien du peuple, et si on déclare la guerre civile après, c'est pour leur bien à eux. Enfin, tous ces discours de justification du meurtre. Évidemment, on y voit aussi la montée de la tyrannie, l'absence de démocratie trumpienne qui peuvent arriver. Donc il y a toutes ces références-là, chacun y prendra ce qu'il veut, sachant que dans le spectacle, c'est pas du tout appuyé. Hein. Rien n'est dit, il n'y a aucune allusion, il reste sur Shakespeare, il n'y a pas l'ombre de Trump qui se balade. C'est après le public qui va, lui, y voir en reflet ce qu'il veut. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec Vincent, c'est quand même, il faut souligner cette magnifique scénographie qui n'est pas que magnifique. C'est-à-dire que, évidemment, Nosiciel, il cherche à faire du beau, il a toujours cherché ça dans ses scénographies. Parfois, c'était très agaçant sur certaines pièces, je trouvais, parce que le beau était vide. Et là, il réussit quelque chose d'étonnant, c'est que le beau est plein. C'est-à-dire que chaque élément de scénographie, chaque modification du décor, chaque trompe-l'œil qui tombe, chaque mobilier qui apparaît, va dans le sens de la pièce. C'est-à-dire que tout concourt à nous faire comprendre quelque chose sur ce qu'est la vengeance et le pouvoir. Et quand tout va dans le même sens, bah, le beau, il prend tout son sens sur scène. Et c'est pour ça que le théâtre est efficace. C'est quand on a des acteurs qui disent un texte, une scénographie qui parle, et puis quelque chose qui devient limpide. Donc là-dessus, c'est amplement réussi. Et notamment, vous parliez du temps suspendu, quelque chose de très beau dans ce spectacle-là. C'est la lenteur et les gestes. C'est très chorégraphié. On l'a pas dit, mais c'est du théâtre. Mais par moments, c'est vraiment de la danse. Il y a un chorégraphe, hein, d'ailleurs, Damien Jallet, qui a travaillé avec eux, et on reconnaît vraiment sa grâce et son élégance. Par exemple, quand les groupes d'hommes conspirent, ils sont 6 ou 7 à conspirer contre César avant qu'il meure, ils marchent au pas exactement de la même façon, tout est coordonné, ils ont des gestes de main pour les différencier différents. Chacun, ça c'est très élégant et c'est très beau. Et la lenteur dont on parlait, il y a une scène qui, je trouve, est très réussie, c'est cette fameuse scène finale de bataille où, en fait, les metteurs en scène ne savent jamais comment faire une scène de bataille sur scène, on s'en sort pas. Et ben là, on est plongé dans un rouge, donc le sol est rouge depuis le départ, hein. On est sur une grosse moquette rouge qui évidemment signifie à la fois la richesse et le sang, ça marche très bien, mais là la scène complète devient rouge, les lumières envahissent et Brutus qui est à la tête de l'armée, lui est vraiment comme un militaire, c'est-à-dire qu'il court partout, on va aller attaquer cette phalange et puis l'autre, et tous les autres, eux, marchent au ralenti, c'est-à-dire qu'ils suivent les ordres, mais ils avancent très lentement, comme s'ils savaient évidemment la mort qui les attend au bout de l'ordre de Brutus. Ça, le ralentissement à certains moments de la pièce, pareil, va dans le sens de la pièce et c'est pas juste un effet comme ça avait pu être par exemple dans la dernière mise en scène qu'on avait pu voir de Nosiciel, il avait monté les paravents de Genet. Pareil, il y avait des moments où ça ralentissait beaucoup et je trouvais que c'était beaucoup de l'effet et de l'esbrouf. Là, c'est le contraire, ça c'est le même tic de mise en scène, mais là ça produit du sens et j'ai trouvé ça vraiment très beau, une lenteur solennelle qui vraiment approfondit la noirceur de l'homme derrière toutes ses actions. Et c'est, le ressenti est très fort, en fait.
Il y a cette transposition aussi, dont on l'a dit rapidement, mais dans l'Amérique des années 60, l'Amérique triomphante, le jazz, très chic comme ça. Qu'est-ce que ça produit, ça, Vincent Bouquet?
Alors, c'est vrai qu'il y a cette esthétique des années 60 qui est là, qui est présente. Et en même temps, j'allais dire, pour aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer comme ça, ils sont en toge ou autre. Alors là, non. C'est vraiment un peu ce que j'allais dire, des gangsters du pouvoir, quoi. Ils sont comme ça, avec des costumes,
très beau smoking au départ.
Ah oui,
très
formidable. Et ils sont comme ça, d'une élégance folle, d'un raffinement. Et je trouve que, alors moi, ces gangsters du pouvoir, ça a vraiment fait écho aux gangsters du Splendid de Genet, qu'Arthur Nosiciel avait monté quelques années plus tard. Et d'ailleurs, j'en ai discuté un petit peu avec lui. Il me disait que c'était en montant Jules César qu'il avait eu l'idée de Splendid, que comme ça avait germé. Et donc oui, moi je trouve que cette esthétique des années 60 aujourd'hui, plutôt que d'ancrer la pièce dans cette époque-là, elle lui donne un peu la force de la temporelle, j'allais dire. Et donc comme disait Marie, je pense que à ce moment-là, on a d'ailleurs des moments tout à fait renversants. Alors vous citiez la scène de fin, alors qui est souvent d'ailleurs trappée,
oui,
parce que
on la voit très rarement.
Oui, parce qu'on se dit, mais comme toutes les scènes de guerre,
on s'arrête sur la mort de César, quoi, c'est ça normalement.
Il y a la fin sur les tractations du pouvoir, mais cette grande scène de bataille, en fait, les metteurs en scène...
Comme souvent chez Shakespeare, en fait, toutes les scènes de bataille, souvent, on les trappe parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Alors bon, il y a Arnaud Mnouchkine qui sait parfois faire ça, des grandes scènes de bataille comme ça. Mais c'est vrai que sinon, les metteurs en scène, ils sont un peu gênés aux entournures, quoi, parce que ça peut vite être un peu ridicule. Et là, vraiment, il y a à la fois aussi Arthur Nosiciel. Alors, il y a cette esthétique des années 60, mais par exemple, il y a des morceaux de musique, notamment le My Body is a Cage d'Arthur Arcade Fire, il y a du Nelly Furtado aussi, qui l'ancre dans sa période de création à ce moment-là. Ouais. Et donc tout comme ça est brouillé, les cartes sont brouillées tout le temps, et donc il y a vraiment cette force de la temporelle qui permet de faire résonner aussi, Marie le disait, alors moi, je n'étais pas au Gémeaux, mais j'étais au TNB, Donald Trump avait
à la création
pas
à, Rennes,
à la création à Rennes, tout ouais. à fait, enfin à la reprise à Rennes, et donc à ce moment-là, bon, Donald Trump était déjà élu, mais il n'était pas encore aux commandes, et là, c'est vrai qu'on ne fait que ressentir ça encore davantage, j'imagine, d'avoir comme ça cette démocratie en perdition, ce César qui, en fait, met en place une monarchie qui ne dit pas son nom, quand même, et cette menace mortelle, en fait, qui guette la démocratie. Alors, il y a les États-Unis, mais il y a aussi l'Europe. Hein, donc,
Marie, très rapidement.
Oui, juste un dernier mot. Je voulais parler de la danse finale, enfin la fin en fait. Donc tout le monde est mort, hein, grosso modo, après la bataille. Bon, ça se passe pas
presque,
très bien.
Ou presque.
Mais à la fin du spectacle, en fait, on ne finit pas avec la pièce. On finit avec le théâtre parce que tous se relèvent avant même d'arriver au salut. Hein. Les gens se relèvent et ils commencent à danser tous ensemble. Et ça, c'est très Broadway. Alors pour le coup, on retrouve l'Amérique qui arrive. Mais ça veut aussi dire, c'est quand même du théâtre en fait. Où est-ce qu'on est ? On est au théâtre. Il y a ce trompe-l'œil derrière. Ces gens qui dansent. De musique un peu swing de la fin alors qu'on vient de voir un massacre énorme. Et je trouve que c'est très beau ce show must go on à la fin et ce on est au théâtre.
Julius César d'après William Shakespeare, mise en scène d'Arthur Nozissiel, c'est jusqu'au 15 mars au théâtre Les Gémeaux à Sceaux.
12h-13h30 Les Midis de Culture. Marie Laborie.
L'esthétique de la résistance, c'est le grand roman de l'allemand Peter Weiss. Il en termine le troisième tome juste avant de mourir en Suède en 1982. Et c'est ce texte que Sylvain Creusevaux adapte et met en scène en ce moment au Théâtre de l'Odéon à Paris. Un texte qui raconte le parcours initiatique d'un jeune ouvrier berlinois communiste de 1937 à la chute du Troisième Reich. Et la question du pouvoir de l'art et de son rôle face au nazisme, au fascisme ou aussi au stalinisme est au cœur du dispositif. Sur scène, Creusevaux a convié les élèves du groupe 47 de l'école du théâtre national de Strasbourg. On commence avec un avis rapide, Vincent Bouquet.
Alors moi je dirais que c'est une adaptation tout à la fois audacieuse, brillante et exigeante de ce roman Somme de Peter Weiss et qui, c'est vrai, en entremêlant le pouvoir émancipateur de l'art, comme vous l'avez dit Marie, et la déréliction politique, parce qu'il y a aussi ça, la résistance au fascisme et les convulsions de l'utopie communisme, et bien encore une fois ça résonne là aussi de façon assez troublante avec notre actualité et ça prouve que en se plaçant du côté des victimes, parce que tous sont quand même un peu des victimes de l'histoire, et bien que celles et ceux dont on a pu entendre dire qu'ils n'étaient rien, ils sont en réalité tout.
Marie Sambier.
Je trouve que c'est un grand spectacle, engagé comme toujours chez Creusevaux. Creusevaux creuse son sillon des idées marxistes et prouve encore une fois que le théâtre est le médium parfait pour les mettre à la portée de tous. Et la preuve, c'est ce double hommage qu'il fait. Le spectacle est dédié à François Tanguy et... il y a des hommages permanents à Bertolt Brecht, c'est quand même les deux maîtres de Creusevaux. Et je trouve que ce spectacle, c'est tout ce que le théâtre public devrait être, c'est-à-dire enthousiasmant et en même temps, il sert à élargir nos consciences.
On écoute un extrait tout de suite de l'esthétique de la résistance.
Et Brecht, se retournant, constate qu'il est là sur le seuil, dans l'embrasure de la porte, deux agents de la police secrète qui brandissent un mandat de perquisition.
Tout a été noté. Mon nom, mon adresse, ma date de naissance. Et j'allais bientôt devoir me préparer à subir un interrogatoire.
Constatant qu'il y a des livres partout, les deux policiers demandent s'il y a ici des publications à caractère politique. Pas du tout, crie Brecht, c'est de la littérature, ce n'est que de la littérature. Comme pour faire rempart de son propre corps, il se place devant les piles de livres. Son visage est pâle, son visage est verdâtre, sur son visage vert pâle, ses traits crispés de dégoût. Il suit chacun des gestes des agents qui sont déjà en train de feuilleter les ouvrages. « Mais comment les prenez-vous » s'écrie-t-il dans un mélange de danois et de suédois. « Mais enfin, ne léchez pas votre pouce !» À présent, les deux agents sont penchés sur une caisse, sur une cantine noire, une cantine noire de marin, qui contient les manuscrits les plus importants, ainsi que des livres soigneusement triés, les Géorgiques de Virgile, dans la traduction de Voss, de la nature, le grand poème épique de Lucrèce, dans l'adaptation de Knebel de 1881, un recueil de poèmes d'Ovide et de Catulle, dans une édition scolaire, imprimée par Teubner à Leipzig, en 1882, les Métamorphoses d'Ovide, imprimé par Milius à Berlin en 1791, les Vies parallèles de Plutarque, un volume relié en cuir aux éditions Langenmüller qui porte la date de 1913.
Voilà, l'esthétique de la résistance mise en scène par Sylvain Creusevaux. Vincent Bouquet, je vous regardais, vous aviez l'air aux anges en fait en écoutant cet extrait.
Ah bah, je suis tout à fait aux anges. je suis tout à fait aux anges. Moi, c'est un spectacle pour vous dire que j'ai vu il y a un peu moins de deux ans maintenant à la création au TNS. Je suis allé le revoir avec plaisir, avec grand plaisir. Aussi parce qu'il a subi quelques coupes entre les deux. Il durait 5h45 à la création. D'ailleurs, je me souviens que Sylvain Creusevaux ne savait pas trop combien de temps ça durait à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'en dure plus que 4 heures, donc ça a été un petit peu resserré. Et j'avais d'autant plus d'enthousiasme à l'époque, et j'en ai encore, que c'est un projet complètement fou quand même dans lequel s'est lancé Sylvain Creusevaux. Faut le voir, cette esthétique de la résistance. À la base, c'était quand même 3 livres. Aujourd'hui, ils ont été réunis. C'est ce qu'on appelle vulgairement un gros pavé. Ça fait 900 pages. Les gens qui sont à l'Odéon, d'ailleurs, il y a la bibliothèque, on pourra le voir. Il est quand même assez massif. et donc, on peut douter un peu, a priori, qu'il puisse s'adapter à assez facilement au théâtre parce que, comme vous le disiez Marie tout à l'heure, il brasse vraiment très large. On a comme ça le parcours initiatique de ce jeune homme, et puis alors il est entre 37 et 44, il traverse l'Europe en guerre, puis alors il va un peu partout, hein. Il parle d'Allemagne, il va en Espagne pour rejoindre les brigades internationales, ensuite il met le cap vers la France pour croiser les membres de l'Orchestre Rouge, et puis après il vient en Suède, où il fait la rencontre de Brecht. Et enfin, il revient à Berlin pour intégrer les cellules clandestines du Parti communiste allemand. Alors, comme ça, on pourrait se dire, ce livre de Peter Weiss, c'est un peu un récit d'un résistant à l'européenne. Mais en fait, non. Parce que, comme vous le disiez toujours, Marie, avec cette collection d'œuvres picturales et littéraires qui sont placées comme ça sur son chemin et qui vont résonner en lui de façon à la fois prophétique, à la fois intime et à la fois politique, eh bien, toutes ces œuvres vont participer à sa transformation progressive. Or, sans vouloir jouer au name-dropping, mais on a par exemple des tableaux de Bruegel, le Massacre des Innocents et le Triomphe de la Mort, le Guernica de Picasso, le 13 des Maillots des Goya, Mère Courage aussi de Brecht, le Radeau de la Méduse de Géricault, la Mélancolia de Dürer, et tout cela, à chaque fois, Sylvain Creusevaux va comme ça les détailler. On y reviendra sans doute par des vecteurs scéniques. Et c'est vrai que, voilà, on a une œuvre comme ça qui entremêle art et politique, voyage initiatique, quête intérieure, et c'est vraiment là que Peter Weiss fera vraiment très très fort et très très juste.
Alors justement, comment apparaissent ces œuvres d'art qui les grainent comme ça tout au long de son parcours ?
Alors c'est là où Sylvain Creusevaux est toujours très fort, c'est un grand metteur en scène justement pour ça, parce qu'il arrive à prendre des textes qui sont vraiment pas du tout théâtraux, hein, ce livre-là, vraiment, pour en avoir lu des bouts, c'est anti-théâtral au possible, et il en fait du théâtre, mais alors du pur théâtre, et là il est très fort. Alors Alors prenons le début qui est pour moi fascinant, vraiment la première demi-heure, disons, que je trouve mais prodigieuse. Tout part du bas-relief d'un hôtel de Pergame. Donc Pergame, c'est en Turquie, un bas-relief classique. Sur ce bas-relief, on voit une scène de gigantomachie. Vous savez, ces géants qui se sont battus dans... c'est de la mythologie. Hein. Bon. Très bien. Cette fresque est reproduite donc sur des grands panneaux et se trouve devant cette fresque géante, elle aussi, trois ouvriers. Ça, c'est le début du livre de Peter Weiss. Et les ouvriers regardent la fresque, parce que la fresque n'est plus à Bergame, mais à Berlin, donc ils peuvent la voir dans un musée à Berlin. Et donc, ces trois ouvriers allemands regardent cette fresque et se demandent pourquoi, eux, le prolétariat, les ouvriers, ne sont jamais représentés dans les œuvres d'art. Tout commence comme ça. Et là, s'ensuit une discussion esthétique que je trouve mais passionnante, un débat entre eux. Est-ce que l'art doit être accessible à tous et donc simple, ou est-ce qu'il doit rester complexe pour proposer des nuances et permettre de penser ? C'est une discussion entre des ouvriers sur ce thème-là. Elle est écrite magnifiquement et au théâtre, elle est parfaite en fait pour un monologue, pour un dialogue de théâtre, parce qu'on a l'œuvre d'art devant nous, donc on la connaisse ou pas, peu importe, on la voit et on voit ces gens s'interroger avec des vraies questions. C'est pas des questions de spécialistes. C'est pourquoi ce sont des géants, pourquoi ce sont toujours des gens de pouvoir qui sont représentés sur les œuvres d'art et jamais nous, les ouvriers, qui pourtant travaillons et faisons en sorte que le monde avance. Cette question, elle est vertigineuse et elle est géniale. Et ils s'approprient ce discours, qui est quand même théorique hein, dans le livre, c'est quand même un livre assez théorique. Ils se l'approprient de façon, là encore, très concrète, c'est-à-dire que ce sont des ouvriers qui parlent entre eux. Il y a la mère d'un des ouvriers qui est joué par Valérie Dréville, qui arrive et qui, elle aussi, a un avis sur la question. Donc, le langage proposé
elle
par...
Elle voudrait voir carrément Staline.
Exactement. Alors, elle veut qu'il y ait Staline dans la fresque. Voilà. Bien sûr, mais ce dialogue-là est aussi assez savoureux. Et donc, ça rend l'esthétique, enfin la discipline esthétique, donc la philosophie de l'art, complètement théâtrale. Et ça, pardon, mais il n'y a que Sylvain Creusevaux qui sait faire ça aussi bien. Il le reproduit plusieurs fois dans le spectacle, puisqu'en effet, après, il y a une grande scène sur Guernica. Et il pose des questions qui, moi, je trouve, me fascinent. Les questions qui sont posées, c'est comment ce qui est cruel peut être beau ? Question posée à partir de Guernica, qui est quand même la représentation d'un massacre. La peinture peut-elle lutter contre le fascisme ? Voilà, des grandes questions. Et c'est des questions qui sont posées de façon, encore une fois, très concrète. On n'est pas dans la théorie fumeuse. Hein. On est là aujourd'hui, on est en guerre, ils sont complètement... mis en prison, déportés parce qu'ils sont communistes, est-ce que peindre un tableau, ça sert à quelque chose ? C'est ça qu'il pose comme question. Les réponses sont évidemment celles qu'elles sont, mais en tout cas, elles ouvrent un champ de réflexion et de conscience génial. Et moi, ce qui m'a vraiment fascinée pendant ce spectacle, c'est que j'ai eu l'impression de penser en permanence. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression qu'il me donnait des billes, des idées. Alors, ça va très vite, hein. Il faut dire, c'est un peu l'inverse de Nosiciel. C'est-à-dire qu'autant Nosiciel était dans la lenteur, autant Creusevaux, le débit va très vite, les interrogations sautent, passent. Mais j'ai essayé de noter comme ça plein de phrases qui, moi, m'ont stimulée. C'est un spectacle extrêmement stimulant.
Spectacle stimulant, Vincent Bouquet.
Oui, exactement. Moi, je trouve que c'est vraiment une des qualités de Sylvain Creusevaux, d'ailleurs, au fur et à mesure de ses spectacles comme ça. Il a vraiment cette rigueur intellectuelle, ce souci du détail, et il ne cède jamais un millimètre sur le terrain de l'exigence intellectuelle. Et aujourd'hui, en fait, ça fait un bien fou, parce qu'il fait vraiment confiance à l'intelligence de ses spectatrices, de ses spectateurs. Il les met dans une position active, il les stimule, il les pousse à s'emparer de ce flot d'idées et de connaissances, et c'est vrai que quand on ressort, eh bien, on se sent plus intelligent, plus cultivé, avec aussi l'envie dévorante d'aller poursuivre l'exploration des œuvres. Moi, je suis allé regarder, par exemple, les tableaux de Bruegel. Je suis allé regarder, bon, et même des fragments d'histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas forcément.
Mais sans non plus que ce soit une prêche.
Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que c'est juste, enfin. Il nous donne suffisamment envie, voilà. En fait. C'est vraiment ça. Il suscite ça. Et ça, je trouve que c'est très, très, très fort. Parce que aujourd'hui, c'est un peu rare. On va souvent être dans un excès de didactisme. On va, là. Et en même temps, vraiment, c'est ce fin équilibre entre exigence et en même temps, c'est accessible quand même. Il le rend accessible. Comment il le rend accessible? Il le rend accessible, et c'est là où il est très, très fort aussi. Il le rend accessible, en fait, en convertissant tous ces fragments dont il s'empare en situation de théâtre, en situation de jeu. Et là où Peter Weiss faisait, on va dire, de son esthétique de la résistance une sorte de creuset d'œuvres picturales et littéraires, eh bien Sylvain Creusevaux, il fait de son spectacle un berceau de plein d'esthétiques théâtrales. On va avoir du théâtre de récit, on va avoir de l'agiprop, on va avoir du théâtre documentaire, du théâtre musical. Et vraiment, il fait sien, comme ça. Il arrive à tirer, comme ça, Peter Weiss vers lui, sans le dénaturer. Et en plus, ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'il y a vraiment une fluidité dans tout cela. Parce qu'on pourrait se dire que ça va être un peu patchwork, ça va être... Pas du tout. Pas du tout, parce que justement, il y a ces vecteurs formels scéniques, qui permettent, par exemple, vous disiez, les œuvres, comment il les met en scène, eh bien, on va avoir une plongée dans un tableau de Bruegel à un moment. Tac, on va comme ça faire apparaître le tableau, et puis on va avoir des détails, c'est notamment sur le massacre des innocents, et puis on a aussi ce rapport très direct au texte, on va avoir des longs fragments de texte qui vont comme ça apparaître, donc on entretient ce rapport au texte. Et tout ça, ça participe de l'exigence et de l'accessibilité de ce spectacle.
Marie, un dernier mot.
Un minuscule mot sur les acteurs quand même, parce que je voulais souligner...
Oui, avec le groupe 47,
alors,
déjà.
Il y a les élèves du TNS qui se mêlent à la troupe et qui font tout leur possible pour être dans le game, j'allais dire, pour jouer comme les autres. Mais il a des acteurs magnifiques. Je voulais juste citer Vladislav Galard, qu'on a écouté là dans l'extrait, qui est de toutes les aventures de Sylvain Creusevaux, et qui est un acteur mais prodigieux, qui a un accent allemand, vous pouvez pas résister, quoi.
Et peut-être sur les jeunes du TNS, peut-être Gabriel Damani qui joue le narrateur, qui est tout le temps là, et puis Charlotte Issali qui joue le rôle d'Autocad, c'est celui de Karine Boy, et qui est absolument formidable aussi.
Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup Vincent Bouquet, Marie Sorbier, d'être venu nous parler esthétique de la résistance. C'est jusqu'au 16 mars au Théâtre de l'Odéon à Paris, et toutes les références sont évidemment sur la page des Midis de Culture.